Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Xavier Sartre.
Appel du pape en faveur de la paix en Ukraine et prière pour les victimes des glissements de terrain en Afghanistan lors de la prière du Regina Coeli. Un peu plus tôt dans la matinée, le pape François célébrait une messe d'action de grâce à la paroisse des Polonais de Rome pour la canonisation la semaine dernière de Jean-Paul II. Malgré les épreuves, les attentats et la violence quotidienne, les Irakiens ont voté cette semaine. Le patriarche Louis Sacco garde l'espoir d'un maintien de l'unité de son pays. L'invité du dimanche cette semaine, c'est le père Michel Van Paris de l'abbaye de Cheftong en Belgique. Il nous parlera de son engagement en faveur de l'écuménisme. Bienvenue dans le magazine de radio Vatican. Le conflit en Ukraine ne cesse de préoccuper le pape. À l'issue de la récitation du Regina Coeli de ce troisième dimanche de Pâques, place Saint-Pierre, le pape François a lancé un appel en faveur de la paix en Ukraine. « Je vous invite à confier à la Vierge la situation en Ukraine où les tensions ne cessent pas. Je prie avec vous pour les victimes de ces derniers jours, demandant au Seigneur de répandre dans les cœurs de chacun les sentiments de pacification et de fraternité. » Le pape a également évoqué le drame qui a touché l'Afghanistan cette semaine, l'énorme glissement de terrain qui s'est abattu sur un village. Que Dieu Tout-Puissant, qui connaît le nom de chacun d'eux, les accueille tous dans sa paix et qu'il donne aux survivants la force d'aller de l'avant grâce au soutien de tous ceux qui s'affairent pour soulager leurs souffrances. Selon un dernier bilan officiel, 300 personnes ont perdu la vie dans cette catastrophe. Auparavant, le pape s'est rendu dans la matinée à la paroisse Saint-Stanislas, au cœur de Rome. Saint-Stanislas, c'est la paroisse des Polonais de la capitale italienne. Le pape y a été accueilli par une foule de fidèles venus pour la messe d'action de grâce pour la canonisation, la semaine dernière, de Jean-Paul II. Olivier Bonnel.
Pierre est le point solide de référence de la communauté parce qu'il est fondé sur la roche qu'est le Christ. Ainsi fut Jean-Paul II, vraie pierre ancrée dans la grande roche. C'est par ces mots que le pape François a évoqué la figure du nouveau saint de l'Église, canonisé il y a tout juste une semaine. Dans son homélie, le pape François est revenu sur l'histoire douloureuse et dramatique de la Pologne. « Vous, frères et sœurs, vous faites partie d'un peuple qui a été très éprouvé dans son histoire », a-t-il dit. Le peuple polonais sait bien que pour entrer dans la gloire, il faut passer à travers la passion et la croix. Et il le sait non parce qu'il l'a étudié, il le sait parce qu'il l'a vécu. Dans les moments de tristesse et d'abattement, a poursuivi François, quand tout semble perdu, Jean-Paul II ne perdait pas espoir parce que sa foi et son espoir étaient fixés en Dieu. Cette messe, célébrée au cœur de Rome, à deux pas de la place de Venise, avait lieu dans une église où s'est rendu pas moins de 80 fois Jean-Paul II au cours de son pontificat. François a salué la foule nombreuse et joyeuse, massée à l'extérieur et qui n'avait pas pu trouver de place dans l'église.
Olivier Bonnel. Et le pape, juste après la fin de la messe, est retourné place Saint-Pierre pour le Regina Coeli. Dans son commentaire de l'évangile, qui parle des disciples d'Emmaüs, le pape a comparé les fidèles aux deux disciples qui reconnurent le Christ ressuscité. Pareil à eux, nous arrivons souvent à la messe du dimanche avec nos préoccupations, nos difficultés, nos désillusions. La vie, parfois, nous blesse et nous en allons, tristes, vers notre Emmaüs, tournant le dos au dessein de Dieu. Nous nous éloignons de Dieu, mais la liturgie de la parole nous accueille. Jésus nous explique les Écritures et rallume dans nos cœurs la chaleur de la foi et de l'espoir, et dans la communion, il nous donne la force, a-t-il expliqué. Le pape alors exhorté les fidèles présents place Saint-Pierre à lire chaque jour un extrait de l'Évangile et à communier le dimanche comme il l'a déjà fait au cours des mois précédents. Quand tu es triste, prends la parole de Dieu. Quand tu ne te sens pas bien, prends la parole du Christ. La parole de Dieu et l'Eucharistie nous remplissent de joie, s'est exclamé François. Un rabbin et un professeur musulman, tous deux argentins, accompagneront le pape François dans son voyage à Amman, Bethléem et Jérusalem du 24 au 26 mai prochain. C'est ce qu'a confirmé le Vatican samedi. Le rabbin de Buenos Aires, Abraham Scorca Vieyami de Jorge Mario Bergoglio et Omar Aboud, président de l'Institut pour le dialogue interreligieux de la capitale argentine, l'accompagneront dans son premier voyage en Terre Sainte. Cette présence de dignitaires d'autres religions dans la délégation du pape est une première absolue dans l'histoire l'histoire des voyages pontificaux. Elle devrait susciter de nombreuses réactions d'intérêt dans les mondes musulmans et juifs. Si l'aspect œcuménique du rapprochement entre églises chrétiennes primera lors du voyage, puisqu'il vient marquer le 50e anniversaire de la rencontre à Jérusalem entre Paul VI et le patriarche Athénagoras, il ne fait pas de doute que le dialogue interreligieux constituera également l'un des grands enjeux dans une région où les chrétiens sont devenus une toute petite minorité. En Irak, la population est souvent la plus exposée, victime des attentats et de la violence. Les chrétiens souffrent comme le reste de la population. Mercredi, journée d'élection générale, la population a montré son courage, faisant la queue pour voter malgré les risques d'attaque. Mais au terme du dépouillement, qui prendra au moins 2 semaines, le rééquilibrage des pouvoirs entre les communautés risque de réveiller les tensions. Le patriarche Louis Sacco garde toutefois l'espoir d'un maintien de l'unité irakienne.
On n'a pas eu d'explosion ou d'attaque, surtout à Bagdad. Moi, j'ai constaté que l'opération est bien passée, tranquillement, et les gens étaient contents, on voyait beaucoup d'espoir et d'optimisme sur leur visage. Depuis 10 ans, tout le monde est fatigué. Le pays n'a pas progressé, au contraire, a fait un peu marche arrière, malheureusement, à cause de la division et aussi des confessionnalismes. Tout le monde attend un changement. Tous les Irakiens ont un seul espoir, un nouveau gouvernement avec beaucoup de, disons, de progrès, de sécurité, de paix, de stabilité, de travaux et aussi de projets à renouveler l'infrastructure, l'éducation, les services, l'électricité, l'eau, les routes. L'Irak est un pays riche toutes ces 10 années. Où est l'argent?
On attend la formation de l'exécutif. Quelle place pour les chrétiens?
Il y a le 5 siège réservé aux chrétiens. Malheureusement, il y a une ligue entre les coalitions potentielles pour avoir aussi ces 5 sièges en leur faveur. Mais hors du 5 sièges, il y aura aussi d'autres chrétiens dans d'autres listes. Moi, je crois qu'il y aura 7 ou 8 chrétiens cette fois.
Avec les violences, les chrétiens continueront de fuir malgré cette nouvelle législature.
Oui, c'est dommage. L'exode continue. Et le nombre diminue de plus en plus. C'est triste de voir cet exode qui n'est pas justifié. Maintenant, depuis 1 an et demi, il n'y a aucune attaque contre les chrétiens. Ceux qui partent sont, disons, en travail et une bonne situation.
Le patriarche Louis Sacco, il était interrogé par Antonino Gallofaro. C'est à partir de ce lundi qu'aura lieu la rencontre entre la Conférence des Églises européennes et le Conseil des Conférences épiscopales d'Europe sur la condition des Roms en Europe. Du 5 au 7 mai, à Athènes, les participants, réunis sous l'égide du gouvernement grec, qui assure actuellement la présidence tournante de l'Union européenne, écouteront différents témoignages et expériences liés à l'activité pastorale des Églises pour les Roms et à l'engagement politique de personnes appartenant à la communauté Roms. Moment de partage et de dialogue autour des activités de la Commission européenne, du Conseil de l'Europe et des Églises en Europe, dans le domaine politique et pastoral pour les Roms. Cette rencontre est née de la constatation de la situation dégradante dans laquelle vivent une grande partie des Roms en Europe. Les Églises du continent sont largement préoccupées et réclament des réponses communes et urgentes de la part des États, où les minorités Roms vivent de plus en plus aux marges de la société. Selon la CCE et la CEC, cette situation démontre la grande difficulté des nations européennes à intégrer cette minorité ethnique et culturelle. Passons maintenant à la seconde partie de ce magazine avec l'invité de ce dimanche. L'invité qui est un moine, il s'agit du père Michel Van Paris. Celui-ci est entré en 1960 au prieuré bénédictin de Cheftogne en Belgique, où cohabitent moines de rite latin et de rite byzantin. Il a été ordonné prêtre en 1969, il est devenu ensuite maître des novices, puis premier abbé en 1991, charge à laquelle il a renoncé en 1997. Très engagé dans le dialogue œcuménique, il collabore également depuis 1993 avec la Congrégation pour les Églises orientales dont il est devenu consulteur en 2002. De 2008 à 2013, il a été délégué pontifical pour la Congrégation méquitariste arménienne de Venise. Sœur Catherine Aubin a interrogé le père Michel Van Paris à la fois sur sa vocation et sur son parcours de moine dans l'œcuménisme.
Père Michel Van Paris, est-ce qu'on peut dire que le cœur de votre parcours s'enracine dans le monastère de Cheftogne ? Et quelle est cette particularité du monastère de Cheftogne en Belgique ?
Certainement, puisque je suis entré à l'âge de 17 ans au monastère de Cheftogne. Donc, pour moi, le choix était certainement de devenir moine. L'autre choix était certainement l'ouverture œcuménique de cette communauté. Donc, puisque j'avais découvert au collège des jésuites le monde anglican et aussi le monde orthodoxe russe, le Seigneur m'a pris comme cela, comme il fait avec la plupart d'entre nous, c'est-à-dire il prend des moyens très humains, très limités pour nous faire découvrir un chemin qui est pour moi devenu un chemin de vie, un chemin spirituel. Mais certainement ce qui a été déterminant dans le choix que j'ai fait de Cheftogne, donc bien sûr la vie monastique, mais aussi une fascination pour le Christ qui m'a fait découvrir les romans de Dostoïevski.
Expliquez-nous.
C'est-à-dire une figure très humaine, qui implique pas seulement la raison, la tête, mais qui implique aussi le cœur. Donc je suis entré à Cheftogne, une communauté alors bien située dans la tradition bénédictine, qui a une caractéristique assez surprenante, disons à première vue. D'abord, c'est que c'est une communauté internationale. Actuellement, la communauté compte 28 moines et il y a 11 nationalités différentes. Et d'autre part, c'est une communauté où, disons, cette ouverture œcuménique, où se faire des faits œcuméniques. Dans ce sens qu'il ne suffit pas donc de rencontrer l'autre, de connaître sa spiritualité, de l'étudier, sa théologie, sa littérature, ses langues. Il faut quelque part se faire l'autre sans le tirer à soi, mais en allant vers lui. C'est-à-dire la division des églises est un scandale et je pense que ce qui préside à la vocation de Cheftogne et à toute vocation œcuménique authentique, c'est la souffrance pour cette église déchirée par les fautes humaines, je pense, et qui n'est plus capable à cause de cela de témoigner du visage authentique, total du Christ ressuscité.
Tout à l'heure, vous avez parlé de Dostoïevski,
oui.
Du Christ par le cœur. Vous pourriez nous expliquer ?
Je pense que dans la vie monastique, on ne cesse jamais de chercher le visage authentique du Christ et en quelque sorte d'être transformé par l'Esprit-Saint en ce visage même du Christ ressuscité, qui est en même temps un Christ très humain. Donc je prends simplement cette image que j'aime beaucoup dans l'église latine de Cheftogne, donc que nous avons pu construire, et dans le fond de l'abside, il y a un Christ en gloire qui a été peint par un moine orthodoxe russe, le père Zénon, et qui est donc le Christ en gloire, mais qui porte les stigmates, comme dans l'apparition de Christ à Thomas et aux apôtres, donc dimanche après Pâques. Le Christ qui est à la fois un Christ glorieux, mais aussi un Christ pleinement humain. Donc ce Christ en gloire qui reste notre sauveur et qui reste le Seigneur de l'Église. Je pense que c'est ce rapport-là qui est important. Ce qui m'a frappé certainement quand je suis entré les premières années, c'est de trouver chez les disciples immédiats, disons les premiers pionniers du mouvement œcuménique, qui sont contemporains au père Congar, au père Christophe Dumont, donc tous ceux-là que j'ai quand même encore bien connus, il y avait une mystique de l'Église, comme épouse du Christ et comme corps du Christ. J'espère que je puisse toujours insérer, disons, mes démarches, la laisser inspirer par cette mystique de l'Église, mais qui est une mystique d'amour pour le Christ glorieux qui viendra. Je pense que nous tous, nous allons découvrir avec une certaine surprise son visage à la fois de fils du Père, mais aussi de fils de l'homme.
L'élan qui a porté Chef Togne.
Il y a, à mes yeux, trois ou quatre grandes périodes dans cette histoire d'une communauté. Donc, une communauté fondée en 1925, fondée dans une perspective œcuménique. Et donc, la première période, certainement, va de 1925 jusqu'à 1958-59, l'annonce du concile par le pape Jean XXIII. C'est une communauté qui a beaucoup souffert, et moi j'ai vu même chez les plus anciens des blessures psychologiques qui n'ont jamais été guéries quelque part à cause des maladresses dont ils ont été l'objet. Ils ont eu un charisme d'entêtement.
Ou de persévérance.
De persévérance, mais comme les moines sont parfois très têtus, ils ont tenu. Mais notre force, évidemment, c'est d'avoir des racines monastiques qui sont communes avec l'Orient chrétien, quelque part aussi d'être accepté par l'Orient chrétien, donc surtout orthodoxe, en tant que moine. Alors, ça nous a beaucoup porté, ça nous porte toujours. Et ensuite, il y a une deuxième période qui est donc le 58-59. Donc c'était en quelque sorte l'explosion de joie de ceux qui avaient eu tort, qui enfin avaient raison. Et c'est une tentation plus insidieuse que d'avoir tort. Et donc un appel qui est venu de tant de côtés différents pour être présent dans cette ouverture œcuménique de l'Église catholique qui était quand même assez neuve, et puis d'être dépassé très vite par cette ouverture. Donc il a fallu repenser notre place dans la situation œcuménique. Donc à partir de 1970-71, est devenu alors en quelque sorte l'automne œcuménique officiel. Il y a une espèce de grande euphorie un peu partout, puis les choses sont allées beaucoup plus lentement, parce que la vie a résisté, les vieilles habitudes, les réflexes inconscients de tous les côtés, donc pas seulement du côté catholique, mais aussi du côté orthodoxe, du côté protestant. Et alors, il y a eu une période où nous avons pris conscience en tant que communauté que nous devions être présents dans la prière et les débats œcuméniques aussi au niveau théologique, mais en tant que moine, dans une tradition qui est la tradition de Saint-Benoît, qui est extrêmement diversifiée. Cette période-là, si je vois qu'il irait pratiquement jusqu'en 1990, serait l'ouverture aux églises orthodoxes non chalcédonienne, surtout donc avec les monastères du désert de Sété, du Badinatroun. Donc il y a eu cette espèce d'ouverture qui nous a donné beaucoup, qui est exigeante parce que l'Orient chrétien est pluriel. Et ça a été un beau défi.
Jean-Paul II, dans une de ses exhortations, dit que l'écuménisme passe par la conversion et par la conversion intérieure.
La conversion profonde et la conversion au Christ. Il y a un chemin de repentir au niveau personnel, mais aussi au niveau, je pense, des églises et des communautés chrétiennes. Il est sans doute beaucoup plus difficile de se convertir comme église ou comme communauté chrétienne que comme personne.
Au cours de toutes ces années, Père Michel, est-ce qu'il y a eu des moments, des rencontres qui ont été pour vous des moments très très importants pour votre parcours, mais aussi bien évidemment pour toute cette recherche de l'unité?
Je pense que la dimension amitié personnelle et je dirais même amitié spirituelle entre membres du corps du Christ mais baptisés dans des églises différentes est très important parce que on refait l'expérience que j'ai fait comme adolescent par rapport au Christ Dostoïevski de recevoir quelque chose du Christ de l'autre chrétien. Je pense que nous devons toujours continuer à demander les uns aux autres ce que lui perçoit, ce que lui vit de ce visage du Christ qui passe par des personnes, par des cultures, par des perceptions historiques du vécu de la foi. C'est-à-dire, si je rencontre un chrétien copte orthodoxe, un moine copte orthodoxe ou un moine arménien, il y aura des configurations particulières et je dois apprendre de l'autre. Parce que apprendre de l'autre, en quelque sorte, m'aide aussi à approfondir ma propre tradition et à en découvrir des virtualités insoupçonnées. Il faut que lui grandisse et que moi je diminue. Et je pense que c'est un programme œcuménique. Donc c'est certainement, on peut dire, bon, le Seigneur m'a donné cette grâce de consacrer ma vie à l'unité des chrétiens, mais j'ai reçu tellement plus que je n'ai pu donner.
Le père Michel Van Paris, c'était l'invité du dimanche de Catherine Aubin. C'est ainsi que prend fin ce magazine. Merci de votre fidélité. N'oubliez pas de nous retrouver sur notre site internet www.radiovaticana.va. En attendant, je vous donne rendez-vous demain, même lieu, même heure.